dans la rubrique Solidaires, migrants, un reportage texte et photo de Marianne Divet. Les exilés ont changé la vie de Carole Bohan. L'expulsion soudaine, à l'hiver 2007, des ouvriers maliens de l'abattoir voisin a jeté Carole Bohan dans le soutien aux exilés, dans la lutte pour leurs droits. Elle est devenue experte et restée révoltée. Le moteur, qui l'entraîne en toutes circonstances, c'est l'humain, c'est la rencontre, ce sont les gens qu'il y a derrière. Montfort-sur-Meux, 28 février 2007, 4h30 du matin. Une soixantaine de policiers font le guet. Ils attendent les 27 Maliens qui, tout à l'heure, prendront le chemin de l'usine. Cela fait 5 ans qu'ils travaillent à la Coperle, deuxième abattoir en France, 1,5 million de porcs par an. 5 ans qu'ils font partie de cette petite cité de 6000 habitants située à 25 km de Rennes. Je me suis sentie interpellée. Cela s'est passé sous mes fenêtres, s'exclame encore en colère Carole Bohan. Les jeunes Maliens habitaient à côté de chez moi. Je les croisais tous les jours. Je savais qu'ils jouaient au club de foot et qu'ils travaillaient. C'est le déclic. S'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Elle entre dans le collectif Mali Montfort, qui vient de se créer et, en mars, défile avec les 1500 habitants qui se sont mobilisés. Jusqu'alors, elle signait des pétitions. J'avais l'impression d'être investie. Cela m'amuse beaucoup maintenant. Les manifestants scandent. Rendez-nous nos Maliens. Carole Bohan se lance dans la lutte et se forme au gré des rencontres avec les militants venus à Montfort témoigner de leur expérience. S'ouvre en juillet 2007 à Rennes le centre de rétention. Je ne connaissais même pas l'existence de ce genre de centre. Il y en avait une vingtaine en France à l'époque. Je n'étais pas la seule à ne pas connaître et encore aujourd'hui, beaucoup ignorent ce que c'est. Les migrants ne sont pas détenus, mais retenus. Retenus parce qu'ils n'ont pas le bon document leur permettant de circuler librement. Seul lieu où on enferme les enfants, beaucoup l'ignorent. Moi, cela me choque. Bénévole, sa journée s'organise comme celle d'une professionnelle. Dès 9h, elle se rend au centre. C'est assez facile. Il suffit d'avoir le nom d'une personne retenue à l'intérieur et être soi-même en situation régulière avec une pièce d'identité pour ouvrir un droit de visite de 30 minutes. Elle y rencontre d'autres bénévoles d'associations. Elle fait la connaissance de Michel Fougeron, présidente du MRAP d'Ille-et-Vilaine depuis presque 20 ans. Celle-ci lui fait prendre conscience de la complexité de ces lois qui se superposent et sont incompréhensibles pour les non-juristes, a fortiori pour les personnes concernées. En fonction des situations, toutes les deux lancent la mobilisation. Elles assurent les permanences dans un local de quartier rennais. Petit à petit, Carole Bohan devient à son tour experte en droit des étrangers. « J'ai fait des études de sociologie, c'est du droit que j'aurais dû faire », dit-elle en riant. C'est alors qu'elle succède à Michel Fougeron comme présidente du MRAP 35. 2009, premier campement des personnes à la rue de Rennes. Une nouvelle étape. Jamais je n'ai pensé qu'un jour j'ouvrirais des squats, s'étonne encore aujourd'hui Carole Bohan. Quand les gendarmes arrivaient, ils avaient du mal à imaginer que la porte avait été ouverte au pied de biche par ces 4 ou 5 militantes, la plupart retraitées et si bien mises sur elles. Peut-on faire autrement quand on se retrouve avec 8 familles à la rue avec des petits? L'équipe du MRAP se rapproche du DAL, droit au logement, qui les forme. Règle numéro 1, on ne s'attaque pas aux biens privés. Règle numéro 2, on recense les biens publics vacants depuis un certain temps. Bingo, un bien est disponible, un funérarium désaffecté. Ce premier squat n'était pas des plus chaleureux. On a ouvert un 1er mai. Les familles nous suivaient avec les poussettes. Puis d'autres familles sont arrivées et on s'est retrouvés au cœur du très rigoureux hiver 2010 avec une centaine de personnes malades, sans chauffage. Nous avons fait venir les médecins du réseau Louis Guillot, un centre médical pour les exilés. Ils ont halluciné. Ce n'est pas possible, disaient-ils, qu'aujourd'hui à Rennes, des personnes vivent dans ces conditions comme au XIXe siècle. Y avait-il plus de migrants ? Non, s'insurge Carole Bohan, c'étaient les réformes de l'État qui créaient la pénurie en décidant de concentrer tous les migrants dans les villes tout en réduisant les capacités d'hébergement. On créait la pénurie pour les dissuader de venir en France. Les médecins alertent les médias. Daniel Delavaux, maire de Rennes, prend en charge le problème. Tout le monde est relogé en 48 heures. L'association ouvre de plus en plus de squats jusqu'en 2012. C'est alors que l'ouverture d'une maison de retraite désaffectée dans les environs de Rennes pose question. Sur la destination des bâtiments, nous savions qu'une association avait racheté le lieu avec un projet social derrière. Cela nous a interpellés. Nous avons rencontré les élus, les bailleurs sociaux, les promoteurs. Pourquoi ne pas plutôt utiliser bâtiments vides en attente de démolition ou de rénovation? Entre le moment où le lieu est évacué et le démarrage du nouveau projet, il y a un laps de temps qui peut être long, parfois des années. Pourquoi ne pas mettre les gens à l'abri durant cette période de non-occupation? Nous avons créé Un Toit, c'est un droit, une association qui négocie directement avec les propriétaires. Ceux-ci signent un contrat de mise à disposition pour une durée déterminée, un commodat. L'association s'engage à restituer le bien dès qu'ils en ont besoin. Le MRAP gère aujourd'hui 15 maisons sur le département. La ville de Rennes prend en charge les fluides et l'association a le soutien de la Fondation Abbé Pierre. Attention, nous ne donnons pas dans l'angélisme, prévient Carole Bohan. Si gérer des logements n'était qu'une question de bricolage, ce serait relativement facile. Nous regroupons des personnes de culture, de religion, de coutumes différentes avec des parcours singuliers et des projets particuliers. Vous imaginez les responsabilités et les risques, risques de bagarre, risques d'incendie, risques liés à la santé. L'association a toujours fait en sorte que les squats soient très ouverts sur l'extérieur. Objectif pleinement atteint en 2014 avec une maison de retraite désaffectée dans le quartier résidentiel de la Poterie à Rennes. Comment allions-nous être reçus? Je peux comprendre l'inquiétude des gens. En fait, cela s'est super bien passé. D'une part parce qu'il y avait possibilité de répartir les familles dans des petits appartements autonomes, moins de promiscuité, donc moins de tension. D'autre part, le lieu est devenu un centre d'animation avec des spectacles, des concerts, de l'aide aux devoirs, un labo photo, des soirées débats très animées. En résumé, un squat ouvert sur l'extérieur et qui a changé le regard des habitants du quartier, des professionnels, des élus et des responsables d'institutions. Au fil du temps, militantes, militants et professionnels ont appris à travailler ensemble. Nous avons des contacts avec la préfecture parce que nous avons développé des compétences, une expertise. Nous avons toujours défendu les conditions de travail des agents. Nous ne nous sommes jamais attaqués au personnel. Nous avons créé une interorganisation de 15 associations et fondations qui affichent leur complémentarité. Nous nous réunissons une fois par semaine et nous portons nos revendications ensemble pour avoir plus d'écoute et de poids. C'est compliqué le débat militant, il faut parfois des heures pour arriver à un consensus. Mais j'aime bien ça. Cela n'empêche pas que, quand il faut être efficace, il faut savoir prendre rapidement les décisions qui s'imposent, et cela souvent dans l'urgence. J'aime aussi travailler dans l'urgence. Les besoins sont énormes. Moins de 50% des migrants sont hébergés. Sur le département, 200 le sont quotidiennement par Un Toit, c'est un droit, 900 par la ville de Rennes et 600 par les services de l'État. Avoir un toit, c'est aussi tout l'accompagnement social qui va avec. L'interprète, le travailleur social qui fera votre récit de vie, aidera dans les démarches, recherchera les preuves matérielles de votre pays d'origine, parce que quand on quitte en urgence, non, on ne pense pas à prendre tous ses papiers. On ne demande pas une attestation qui vous a torturé. Les demandeurs d'asile ont des cicatrices sur le corps qui témoignent pour eux, en plus des traumatismes qui ne se voient pas. Mais aujourd'hui, cet accompagnement ne suffit pas. Les militants du MRAP sont confrontés à la dématérialisation. On héberge les mêmes personnes depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'il n'y a plus de régularisation, donc plus de rotation. Pour sortir de notre dispositif, la personne doit obtenir un titre de séjour. Il lui faut attendre 10 ans pour espérer avoir la possibilité de défendre sa situation devant une commission qui émettra un avis qui ne sera même pas définitif. Ce sera toujours la préfecture qui finira par trancher. On maintient dans la précarité des êtres humains alors qu'ils arrivent au bout d'un parcours migratoire compliqué. Ils ont conscience de la précarité, mais ils sont si soulagés d'avoir la sécurité. Je suis d'un naturel optimiste, mais ce qui m'affole, c'est que l'accès aux droits est archi compliqué. Les lois sont de plus en plus restrictives et les préfectures tellement engorgées à cause de la dématérialisation. Carole Bohan est consciente des budgets que cela représente. Mais pourquoi, plutôt que d'ouvrir des locaux lui-même, l'État a-t-il recours aux services hôteliers ou aux propriétaires privés? C'est une gabegie énorme, sans possibilité de faire autrement. Cela entretient aussi les marchands de sommeil. Je connais des bâtiments dans un état déplorable, mais que l'État subventionne pour l'accueil des migrants. J'ai un exemple en tête où la location à l'État représente 18 000 euros de revenus par mois. Les Thénardier du XXIe siècle. Carole Bohan s'y attendait. Le parcours militant n'est pas un long fleuve tranquille. Non seulement les courriers menaçants et anonymes, non seulement les insultes, non seulement l'expression du doute et le manque de bienveillance de certains responsables institutionnels, mais aussi la garde à vue et le rappel à la loi. Je m'y attendais. Je savais qu'un jour ou l'autre. J'ai été arrêtée alors que nous ouvrions un squat. Ce n'est pas agréable, mais j'avais tous les copains dehors, j'entendais leur soutien. L'avocat commis d'office m'a posé la question. « C'est pour vous ce comité de soutien à 3h du matin dehors ?» Je l'ai vécu durement parce qu'il y avait une centaine d'exilés dehors, sans solution, en plein mois de janvier. C'était notre premier échec d'ouverture d'un squat. Son éducation familiale n'était pas au rendez-vous de l'engagement. « Bien au contraire, dit-elle. » Cependant, quand elle remonte dans ses souvenirs, elle se rappelle de ce couple d'instituteurs, anciens résistants communistes engagés. Ils l'accueillaient à la sortie de l'école primaire. En vieillissant, je pense de plus en plus à eux. Rétrospectivement, je me rends compte qu'ils m'ont bien formé. Tout comme le cheminement avec Michel Fourgeron. Ils ont été les déclencheurs de son engagement. Mon moteur, c'est l'humain, c'est la rencontre, ce sont les gens qu'il y a derrière. C'est difficile de rentrer chez soi tranquillement quand on sait qu'il y a une famille avec des petits-enfants, des personnes seules pour qui c'est très difficile, sans logement, sans appui. Avec mon conjoint, au début, il y a eu des temps d'incompréhension à cause de mon investissement fort, un peu au détriment de ma vie familiale. Je ramenais du travail à la maison, mais aussi des migrants. Petit à petit, son regard a changé, sa vision du monde et la mienne. Depuis 2009, la famille Bohan héberge régulièrement des sans-toits. Les enfants étaient ravis. Nous n'avons jamais beaucoup voyagé, et là, c'était le monde qui venait à nous. Nous avons hébergé un couple de Géorgiens mongols. La maman était enceinte, elle a accouché à l'hôpital de Saint-Malo d'une petite fille. Ils l'ont appelée Carole. Il y a de belles histoires, ce serait à refaire, je le referais. Depuis 3 ans, ce sont surtout des mineurs non accompagnés. Cette année, l'un a eu son bac et l'autre son CAP. À cause de la pandémie, le mari de Carole Bohan n'a plus de revenus. Elle a été obligée de reprendre un emploi salarié. Elle est aujourd'hui assistante dans un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des étrangers. Elle rencontre les mêmes personnes dans une activité pour laquelle elle s'est formée grâce à son engagement militant, formation qu'elle va poursuivre d'une autre manière. Je me suis inscrite en Master 2 de droit de l'étranger à l'Université du Mans. Cela fait beaucoup rire mes enfants, mais j'ai cette chance de pouvoir valider mes acquis. Il n'y a pas d'âge. Je suis soutenue par l'avocate avec qui je travaille. Tu n'es pas juriste, mais tu as les savoirs et les compétences acquis de l'expérience. Fais-le. Carole Bohan n'a plus le temps d'assurer les permanences du MRAP et elle trouve cela frustrant, mais elle espère bien trouver des jeunes pour prendre le relais. À mon tour, je veux transmettre. J'aime bien aller dans les classes avec les personnes migrantes pour qu'elles témoignent de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent. J'aime bien les réactions des jeunes. J'aime moins lorsque je suis devant un public de convaincus parce que c'est rare d'avoir de la contestation. Je ne déteste pas la contradiction, juste pour faire bouger les lignes.